maintenant les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.
Bienvenue dans les ateliers radiophoniques animés par les apprenants de langue et communication en apprentissage de la langue française. Lors de cette session, le choix de la thématique s'est porté sur l'accueil des étrangers en France. Pour ce faire, nous avons suivi une fiction radiophonique, Les Voisins du 12 bis. C'est une coproduction RFI et France Éducation Internationale. Cette fiction évoque l'arrivée de Billy à Paris, une étrangère qui a voulu poursuivre ses études en France. Si les démarches sont faciles pour Billy, c'est moins le cas des personnes étrangères qu'elle rencontre lors de son installation. Ce qui est intéressant dans cette fiction, c'est que nous voyons que la figure de l'étranger est multiple et que les parcours d'insertion sont divers. Pendant cette émission, Azier, Nasreddin, Safa, Nijina, Neza, Sarah, tous étrangers mais avec des aspirations, des motifs d'exil différents, nous racontent leur parcours d'insertion. Ils posent également un regard sur l'accueil des étrangers en France. Nous nous rendons compte que les démarches, les lieux ressources sont différents selon les statuts. Les stagiaires ont tenu à interroger des structures qui ont joué un rôle important dans leur vie rennaise. Ils ont choisi 4 structures, les Restos du Cœur. Les bénévoles n'ont pas pu se rendre disponibles car ils sont très occupés en ce moment, nous comprenons. Le Secours Populaire, Archipel et le Centre Social de Kennedy. Un grand merci à Florian Kuhn, salarié au Centre Social, Jean-Marie Gannot, bénévole au Secours Populaire et Laura Domer, chargée de développement social urbain à Archipel, qui ont accepté de répondre à leurs questions. Un énorme merci aux stagiaires car ils ont partagé leurs réflexions, leurs témoignages et ils ont aussi osé apporter un regard critique et constructif sur ce qu'ils ont perçu de leur accueil en France. Enfin, je remercie Morgane de Canal B et mes collègues de langue et communication car l'émission s'enrichit tout le temps à leur côté. Bonne émission!
Et merci à Anaïs Hiver, formatrice à langue et communication, qui a accompagné les stagiaires lors de cette session radio.
Bonjour, je m'appelle Neza, j'ai 25 ans, je suis marocaine. Je suis rentrée en France fin 2018. Je suis venue en France parce que c'est un pays de sécurité, de liberté et composé de différentes cultures. La France accueille les gens, ils ne voient ni leur religion ni leurs différences. C'est un bon pays pour améliorer mon niveau de vie. Et je n'ai pas encore les papiers, je rêve toujours de régler ma situation pour continuer mes études. J'ai une licence en géographie, j'aimerais bien continuer dans cette branche. Mais quand je suis venue en France, j'ai été vraiment choquée. Car c'est dur de vivre comme une clandestine. Quand je travaille au noir, il y a toujours des personnes qui m'exploitent. Je travaille parfois toute la journée pour 15 euros. On ne donne que les métiers qui sont en tension et qui sont vraiment très durs. Il y a aussi la question du logement, car les clandestins n'ont pas le droit de louer un logement sans contrat de travail, sans papier. À Rennes, il y a des gens qui louent des chambres avec des prix inacceptables. Certains sont des gens qui bénéficient d'un logement social et qui ne payent pas beaucoup de loyer. Cela devient vraiment un business. Je voulais remercier la France pour l'accueil, mais j'espère que le gouvernement français fera de nouvelles lois pour faciliter le règlement des papiers et prendra en compte que les jeunes qui veulent travailler parce qu'on est vraiment dans la galère. Et pour les choses que j'espère qu'il va améliorer, la France pour moi c'est une terre d'accueil grâce au peuple. Mais pas grâce au gouvernement. Il y a beaucoup de personnes qui aident. Les associations aident les étrangers. Mais le gouvernement ne fait pas assez de choses. Sans les associations, des familles n'aura rien du tout. L'État doit faciliter les procédures pour embaucher les étrangers qui travaillent ou qui veulent travailler, pas seulement dans les métiers où il y a des besoins, mais dans les métiers qu'ils aiment. Il y a des talents dans plusieurs domaines. Par exemple, c'est mieux d'embaucher un génie dans l'informatique dans son domaine. Comme ça, il va donner plus, car c'est le domaine qu'il maîtrise et qu'il aime. Il ne faut pas contraindre un informaticien à faire des métiers en tension, comme les métiers du bâtiment ou du ménage, pour régler sa situation. Pour moi, je voulais remercier quelqu'un qui est très proche de moi, qui s'appelle Anwar. Lui aussi, il est informaticien. Il a commencé sa vie avec moi. Elle est beaucoup m'encouragée. Je voulais lui dire merci beaucoup et que je t'aime. C'est tout.
Bonjour, je m'appelle Nigina, je suis afghane. En 2011, mon mari travaillait à l'université américaine à Kaboul. Il était en danger à cause des talibans. Les talibans lui ont demandé d'arrêter son travail. Il a fui l'Afghanistan. Il a passé par l'Iran, la Turquie et l'Italie. En 2013, le gouvernement français lui a donné la carte de séjour. Et après, ils ont donné un visa pour la famille. Je suis partie à l'ambassade de France. En mars 2014, je suis arrivée à l'aéroport de Charles de Gaulle avec mes enfants. Les premiers mois étaient difficiles. Des amis ont fait la demande d'un appartement à Alençon. J'ai déménagé à Alençon. L'école était frais de logement. Je suis venue à Rennes en 2020 car ma fille est rentrée à l'université de Rennes. Mon assistante sociale était très gentille et a beaucoup téléphoné à Archipel pour m'aider à trouver un logement. Ce qui m'a marqué en France, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. En Afghanistan, les femmes ne vont pas à l'école. En France, les femmes peuvent aller à l'école. Les femmes peuvent travailler. Aussi, il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons. Il faut plus de cours de français pour les gens comme moi, qui ne sont pas allés beaucoup à l'école.
Bonjour, je m'appelle Safa, je suis soudanaise, je suis mariée, j'ai deux enfants, je travaille comme comptable au Soudan dans une entreprise de pétrole. Mon mari était en France depuis 2010 pour des raisons politiques. Il a le statut de réfugié. Il est venu nous rendre visite en Égypte, en Arabie Saoudite durant ses 9 années. Car il ne pouvait pas retourner au Soudan. On est content d'avoir le papier, mais on est triste en même temps. Je suis arrivée en 2019 pour rejoindre mon mari. Mon mari a demandé un regroupement familial. J'ai reçu tous les papiers au Soudan. Quand je suis arrivée, j'avais déjà un titre de séjour. Ce que j'aime en France, c'est l'égalité entre les personnes. Tout le monde a les mêmes droits. Et accès à la santé, à l'éducation, à la culture. J'ai trouvé que l'étranger ne passait pas assez de temps avec le français. Le français sont fermés. Les relations restent formelles avec le voisin, par exemple, c'est bonjour, au revoir. Au Soudan, on s'invite à boire le thé très rapidement. Aussi, la famille avec des enfants ont besoin d'aide pour comprendre le système éducatif français. Les enfants ont besoin d'aide aux devoirs car les parents ne comprennent pas leur langue. Il y a des associations pour l'aide aux devoirs, mais ce n'est pas suffisant. Leur vie est en jeu, leur avenir est en jeu. Je voudrais plus d'aide aux devoirs, mais aussi des évaluations adaptées pour les élèves étrangers. Pour qu'elle continue d'aimer l'école. Par exemple, j'ai un enfant au collège scolarisé en France depuis 2019. Et elle prend plus de temps pour récupérer des leçons et comprendre les leçons, car le français n'est pas sa langue maternelle. J'ai parlé à l'orthophoniste. Il m'a dit que c'était tout à fait normal et il a écrit une lettre au professeur principal pour expliquer la situation. Maintenant, mon fils peut prendre en photo la leçon et le professeur va adapter son langage. Je remercie M. Hugo Pels qui travaille à la colonie sociale pour son aide. Il m'a aidé à m'inscrire à plusieurs cours et aujourd'hui, je suis là grâce à lui. Malgré la difficulté que j'ai rencontré en France, M. Pels était la personne qui m'a le plus aidé.
Bonjour, je m'appelle Assie, j'ai 22 ans, je suis albanaise, je suis mariée, j'ai un garçon, il s'appelle Ryan, il est 2 ans et demi. Je suis venue avec mon mari en France pour avoir une meilleure vie qu'en Albanie. Avec mon mari, je suis allée chez mon frère qui habite à Dinard. Je suis restée 3 jours, je suis venue à Rennes, nous avons fait une demande d'asile à Koualia. Nous avons habité dans une tente pendant 5-6 mois. Nous avons cherché une chambre. Nous avons beaucoup déménagé. Nous avons habité à Fougères pour 8 mois. Nous avons déménagé au Triangle à Rennes, à Montgermont. Maintenant, nous habitons un appartement avec une autre famille. Ce n'est pas toujours facile de partager la maison avec des personnes qu'on ne connaît pas. Les enfants font beaucoup de bruit. Je suis toujours dehors avec mon enfant. Je ne peux pas rester à la maison. C'est très difficile. Nous partageons la cuisine, la salle de bain, les toilettes. C'est fatigant. Ce qui m'a marqué, j'ai accouché en France et on a découvert que mon enfant avait une maladie orpheline. Quand mon enfant a été opéré de la tête, j'ai fait beaucoup de visites à l'hôpital. Il y a eu beaucoup de contrôles pour vérifier que tout va bien. Mon frère m'a aidé dans les visites, mais il n'était pas toujours là. J'étais très stressée car j'avais peur de ne pas comprendre les docteurs. Il n'y avait pas de traducteur à l'hôpital. J'aurais aimé de traducteur pour m'aider car c'est sur la santé de mon fils. C'est difficile. Avant, je pense que j'allais avoir une bonne vie en France. On fait sans le papier, ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas impossible. La chose a amélioré. Je veux faire des études, mais ici, ce n'est pas possible à cause de la langue. En dehors des cours de français, je ne pratique pas beaucoup la langue. Je n'ai pas d'amis français. Je voudrais plus d'occasions de rencontrer des Français pour pouvoir pratiquer la langue et connaître la culture.
Je m'appelle Nasreddine, j'ai 28 ans, je suis jouissien, je suis footballeur international. Je suis venu en France le 3 septembre 2021. J'ai joué un match de la qualification de la Coupe du Monde contre l'Algérie. Nous avons perdu 8-0 quand nous avons transité à l'aéroport d'Orly. J'ai décidé de rester à Orly avec deux autres joueurs. Nous ne nous avions pas rentré pour ne pas subir la colère du régime à cause de notre défaite. À Djibouti, on risquait des punitions pour notre résultat. Nous avons resté 2 jours dans les salles d'attente de l'aéroport d'Orly. Le ministre de l'Intérieur français nous a donné un visa de 8 jours pour continuer la procédure. Nous avons pris les trains pour arriver à Rennes. Sur les 3 footballeurs qui n'ont pas voulu rentrer à Djibouti, 2 dont moi sont venus à Rennes. Et le troisième était à Grenoble. Et ce qui m'a marqué en France, les gens dans l'administration ou dans l'association sont très gentils. Il y a beaucoup d'associations comme Koualia où on m'a bien aidé pour les procédures des papiers. En France, je ne suis pas senti seul. Aussi, je vais remercier l'association qui lutte pour le respect des droits de l'homme à Djibouti. Le président de l'association, il s'appelle Jean Louchal, et l'avocat, Madame Delaney Daoud Catherine, nous ont beaucoup aidé notre procédure.
Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis brésilienne, j'ai 24 ans, je suis là depuis 11 mois. Je viens du Brésil, de la ville de Goiânia. Je suis venue pour faire des études de master de droit en criminologie. J'habite avec mon frère, il habite en France depuis 17 ans. C'est pour ça que j'ai choisi la France. Maintenant, je ne sais pas quand je retournerai au Brésil. J'aime bien la France, la qualité de vie, la sécurité. Je vais essayer de passer un examen en français, le DEF-B2, pour rentrer à l'université et obtenir mon visa étudiant. Ce qui m'a marqué, c'est le manque de chaleur humaine en France, parce que les personnes font moins la fête qu'au Brésil. Et au Brésil, nous sommes toujours souriants et bien avec la vie. Nous aimons fêter les anniversaires et les mariages. Tous les week-ends, nous nous rencontrons pour danser, pour manger toute la journée ensemble. En France, les personnes se voient juste à l'heure de repas pour manger. Au Brésil, nous aimons nous réunir en famille, même sans occasion. Les enfants restent chez leurs parents pendant longtemps, même après leur mariage. Et à mon avis, des choses pour améliorer la situation d'un migrant en France, c'est l'équivalence des diplômes, est une chose importante. Cela serait plus facile si les diplômes des autres pays étaient égaux aux diplômes en français. Je dois tout refaire en France alors que j'ai étudié 5 ans au Brésil. Et puis, je trouve qu'il restait 4 ans pour demander un document incertain. C'est très long car, en attendant, je ne peux rien faire, ni travailler, ni faire d'études. Il faut accélérer l'obtention des titres de séjour.
Pause musicale dans l'émission des stagiaires de langue et communication. On écoute Dance With Me, Spaghetti 25C. Dance With Me, Spaghetti 25C, sur Canal B dans l'émission des stagiaires de langue et communication.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Laura de l'association Archipel. Merci Laura d'être nous rencontrer à langue communication. Je vais commencer l'interview et la première question c'est, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît?
Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup de me recevoir. Donc, je suis Laura Domer. Je travaille pour Archipel Habitat, qui est l'office public HLM de Rennes et de sa métropole. Ça veut dire que nous sommes un bailleur social et nous proposons des logements pour les familles sur le territoire de Rennes et de la métropole.
Merci. Pouvez-vous présenter Archipel?
Donc Archipel, en effet, nous on a un patrimoine, on est propriétaire de plus de 16 000 logements, des logements en location pour les familles ou les personnes seules aussi, on loge tout le monde. Et puis on se met aussi de plus en plus à construire des logements en accession pour devenir aussi propriétaire. Voilà, on est du logement social pour proposer des logements de qualité partout sur le territoire, à des prix raisonnables, pour que les gens réussissent, les familles puissent se loger à des prix corrects.
Quel est le statut d'Archipel?
Alors nous, on fait partie des bailleurs sociaux publics. On a un office public. Ça veut dire que nos seules ressources, ce sont les loyers payés par les locataires. On n'est pas une entreprise comme les autres. Voilà, on est un office HLM public. Ça veut dire qu'on a une vocation sociale très forte. On veut être utile aux familles françaises et étrangères qui vivent en France et on veut leur donner les moyens de vivre comme tout le monde, normalement, dans des beaux logements.
D'accord, merci. Quelles sont vos missions ?
Alors moi, mes missions, je travaille avec les gardiens d'immeubles, beaucoup de gens à Archipel, mais c'est vrai que ma mission, elle est un petit peu particulière. Je travaille beaucoup sur le quartier de Maurepas, le quartier du Gros Chêne, où il y a beaucoup de logements d'Archipel Habitat, mais qui ont été construits dans les années 60. Donc ils sont un petit peu vieux et ils méritent beaucoup de travaux, ils méritent d'être réhabilités. Et moi, j'ai été embauchée par Archipel Habitat pour accompagner la rénovation du quartier du Gros Chêne, avec pour mission d'associer, d'impliquer le plus possible les locataires dans la réhabilitation de leur tour, de leur quartier. Donc je fais des réunions avec les locataires pour leur demander qu'est-ce qui ne va pas dans votre logement, qu'est-ce qui ne va pas dans les tours, quels sont les travaux prioritaires. Mais on ne va pas... que là, on dit qu'est-ce qu'il faudrait aussi pour mieux vivre avec ses voisins. Parce que parfois, on se dispute avec ses voisins. Comment est-ce qu'on fait pour mieux vivre ensemble dans un quartier où c'est pas toujours facile? Parfois, voilà, il peut y avoir du bruit. Alors normalement, le bruit, quand on aura fait des beaux logements, il y aura moins de bruit. Donc ce sera plus facile de vivre tous ensemble. Mais voilà, donc ça s'appelle de la concertation. Donner son avis pour le changement. Et il y a aussi une autre mission, et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui, c'est de se dire que pendant ces gros travaux, il va se placer plein de choses, il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont venir sur le quartier, et du coup, il va y avoir beaucoup de travail, beaucoup d'activité qui va être générée dans le cadre de ces travaux. Et on s'est dit comment toutes ces activités, elles pourraient revenir aux habitants et peut-être proposer du travail à des habitants qui arrivent sur le quartier. Il y a des travaux, pourquoi ce ne seraient pas les habitants qui feraient les travaux? Et puis, on a observé aussi que sur le quartier du Gros Chêne, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu le temps d'apprendre la langue française. Et donc, on s'est renseigné. On a su que langue et communication donnaient déjà des cours, mais on a voulu en rajouter. Voilà.
D'accord, merci. Comment aidez-vous les personnes immigrantes?
Eh bien, du coup, alors on essaye de bien les accompagner. Donc ça, c'est nos gardiens d'immeubles. Quand vous rentrez dans un logement, vous avez rencontré beaucoup de personnes, vous avez signé des contrats. Et c'est vrai que c'est pas facile, quand on parle pas bien français, de comprendre tous les papiers, les obligations. Donc mes collègues, ils essayent de bien expliquer. Mais on a aussi travaillé avec Langue et Communication sur un cours de français un peu spécifique au logement, où on va apprendre le français, mais sur les papiers, le vocabulaire du logement. À quoi ça sert un gardien d'immeuble? Qu'est-ce que c'est qu'une quittance de loyer? Tous les mois, je dois payer mon loyer. Qu'est-ce que c'est qu'une assurance habitation? Quand on rentre dans un logement, il faut s'assurer. Il y a plein de choses à savoir. Et quand on ne parle pas bien français, c'est compliqué de comprendre tout ça. Et donc, du coup, eh bien, ce qu'on essaie de faire pour les personnes immigrées, c'est ça, de bien leur faire comprendre leurs droits et devoirs quand ils deviennent locataires chez Archipel Habitat.
Pensez-vous qu'on aide assez les personnes migrantes en France, Yaren?
Alors, à Rennes, il y a beaucoup de choses qui existent. Je connais, voilà, Langue et Communication. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations, mais je comprends votre question. Je pense qu'on peut toujours faire plus. Et effectivement, là, le cours de français d'Archipel Habitat, c'est un peu nouveau. Bon, ça fait déjà depuis 2018. On a commencé en 2018, mais vous avez raison, on le fait pas depuis 30 ans. Là, on se dit qu'évidemment, c'est très important. C'est peut-être la plus importante des choses pour vraiment aider les personnes à bien vivre dans un pays. C'est de comprendre la langue. Donc, je pense qu'à Rennes, on est plutôt bien parce qu'il y a beaucoup d'associations, beaucoup de gens qui vont vers les personnes étrangères. Mais peut-être qu'on peut toujours faire plus.
Merci. Qu'il faudrait-il faire d'autre ?
Peut-être continuer à essayer de faire du lien entre les personnes étrangères et les personnes françaises. Peut-être que vous voyez, dans les quartiers, on essaye que les voisins se connaissent bien entre eux. Et finalement, si on connaît sa voisine qui est française et qu'on lui dit tous les jours un petit mot sur son palier, si on, voilà, on se croise dans le hall, donc on se dit bonjour, je pense que ça peut aider les personnes à bien parler français, et puis à être curieux de dire, ah bah tu vas où, bah je vais faire mes courses à tel endroit, je vais faire de la gym dans le centre social, et donc du coup ça, voilà, donc faire du lien, je pense que essayer de faire du lien entre les gens, ça peut encore aider les gens.
Ouais, très bien. Selon vous, comment peut-on améliorer la vie des personnes migrantes en France?
C'est une bonne question. Alors, je vous parlais des voisins dans l'immeuble, mais il y a aussi dans les écoles. Essayez de se dire qu'à chaque fois qu'on peut être ensemble, favoriser les moments où on peut être ensemble. Vous voyez, je reprends l'exemple, voilà, quand même de notre immeuble. Il y a des fêtes des voisins qui se font. Et je pense qu'il faut que les Français soient bienveillants envers les personnes étrangères en disant, viens, n'aie pas peur. Même si tu ne comprends pas tout, on est content d'être ensemble. Et il faut que les personnes qui ont du mal à parler français pour l'instant n'aient pas peur d'y aller, et c'est vraiment en essayant qu'on va y arriver. Voilà, des moments conviviaux, en fait, qu'on n'oublie pas de se dire, voilà, même juste d'écouter un concert, regarder un spectacle ensemble, et juste de partager et de se dire, bah oui, on aime les mêmes choses, on a les mêmes goûts, et voilà, et donc il faut être ensemble le plus possible parce qu'on est tous pareils. Je participe au Café du Facteur, je ne sais pas si vous connaissez, il faudrait que vous veniez le mardi matin sur Morpa, et on est souvent dans la rue et on propose le café aux passants. Alors c'est surtout aux habitants des immeubles, mais aussi aux passants. Et mardi matin, j'étais au Trois Mouniers, qui est une des tours juste en face du métro, et on croisait plein de gens. Et les gens, ils sont trop contents, justement. Alors, il y a des gens qui avaient habité à Morpa, qui habitent aujourd'hui dans un autre quartier, mais grâce au métro, ils reviennent très facilement. Et ils ont gardé leur épicier qui vend des épices qui vient d'ailleurs et qu'ils ne trouvent pas ailleurs dans Rennes. Ils ont gardé leur médecin. Donc, franchement, le métro, c'est sûr que c'est formidable pour les étudiants, pour les personnes, pour tout le monde, quoi. Donc, ça rend vraiment le quartier plus attractif.
Merci beaucoup, Laura.
Bah, merci à vous.
Canal B, Radio Curieuse.
Bonjour, merci d'être venu nous rencontrer. On est stagiaire en langage et communication où on apprend le français. Et on voudrait vous poser des questions. Mon première question, c'est, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Alors, je m'appelle Jean-Marie Gano, je suis bénévole au Secours Populaire et je m'occupe au Secours Populaire de plein de choses. Je m'occupe de la communication, des partenariats avec les entreprises et je m'occupe également de l'installation de nouvelles antennes. Enfin voilà, je suis multicarte au Secours Populaire.
Pouvez-vous présenter le Secours Populaire ?
Le Secours Populaire, c'est une association de solidarité. Alors, le Secours Populaire est particulier, c'est que c'est un généraliste de la solidarité. Il est surtout connu pour l'aide alimentaire, parce que c'est la porte d'entrée de toutes les solidarités, mais c'est pas que, on ne fait pas que ça. On a une mission d'éducation populaire, et puisqu'on est agréé éducation populaire, donc ça veut dire plein de choses. On s'occupe par exemple de proposer des vacances aux personnes. On fait ce qu'on appelle des journées bonheur, par exemple en été. On s'occupe également de leur proposer une aide matérielle. Pour ceux qui ont, par exemple, un frigo, des choses comme ça, donc dans la limite de nos possibilités, on propose une aide vestimentaire, donc ça, c'est un peu toujours dans le cadre des aides d'urgence. Mais on fait également des cours de français. Alors, c'est pas le terme exact, cours de français, je me rappelle plus, que mes amis qui gèrent ça me pardonnent, mais c'est pas le terme exact, hein, mais parce que c'est pas des cours de français, c'est en fait de l'apprentissage de la langue. Et on fait également de l'accompagnement scolaire. C'est-à-dire que la particularité, c'est que les bénévoles du Secours Populaire vont dans les familles. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas un lieu de, ils vont suivre un bénévole, suit un enfant, et c'est pas de l'aide au devoir typique. Ça peut être aussi de l'accompagnement dans un loisir, hein, donc carrément, ça peut être des choses comme ça. Les Pères Noël verts, bien sûr. Les Pères Noël verts, c'est, on part du principe que chaque membre doit avoir aussi un jouet au moment de Noël. Donc c'est une grosse campagne, les Pères Noël verts. Donc voilà, il y a plein de choses, hein, donc des missions diverses et variées. C'est pour ça qu'on se dit généraliste de la solidarité.
Quel est le statut exactement du Secours Populaire ?
Alors, le Secours Populaire, c'est une association loi de 1901. C'est une association très décentralisée. Contrairement à d'autres associations, il n'y a pas un siège qui décide de tout et c'est vertical. Non, le Secours Populaire, c'est une cascade, en fait, d'associations. Il y a l'association nationale, donc le Secours Populaire français. Il y a des associations régionales, ce qu'on appelle des conseils de région. Elles ont chacun un statut propre. Elles sont avec des statuts déposés. Alors, évidemment, on est tous sur la même longueur d'onde et on fait tous la même chose et voilà, on parle à peu près du même langue. Mais pour autant, chacun est maître de son destin, de ses finances, par exemple. Et ici, au département, c'est ce qu'on appelle la fédération. C'est également une association. Et cette association gère des antennes. Alors les antennes, elles dépendent directement de la fédération. Par exemple, à Rennes, il y a une grosse antenne que vous connaissez peut-être, qui est rue des Veillettes. Mais depuis 2 ans, on a une grosse antenne aussi à Maurepas, dans le quartier de Maurepas, implantée au pôle associatif de la Marbaudet. On va ouvrir prochainement une antenne à Villejean. Et puis, on vient d'ouvrir une antenne à Val-d'Anast. Alors, Val-d'Anast, c'est un regroupement de communes qui est, que je vous dise pas de bêtises, c'était l'ancien, ça s'appelait Mort-de-Bretagne avant. Parce que l'intérêt, ce qu'on a décidé maintenant depuis 3-4 ans dans les instances du Secours Populaire départemental, c'est d'aller vers les gens. Et de plus dire, venez à nous, à notre grosse antenne qui est rue des Veillettes, qui fonctionne toujours et qui accueille beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde et qui remercie d'ailleurs. J'en profite pour remercier tous les amis qui œuvrent tous les jours parce que c'est pas une mince affaire, hein, de recevoir jusqu'à 130, 140 personnes le jour. Donc l'idée, c'est d'aller vers les gens, c'est-à-dire d'aller dans les quartiers prioritaires. C'est pour ça qu'on s'est installé à Maurepas, Villejean. On espère le Blône.
Quelles sont vos missions à Secours Populaire ?
L'idée, c'est que les gens prennent en main leur destin. Ça paraît un peu pompeux de dire ça comme ça, mais c'est un peu ça. C'est même pas un peu ça, c'est complètement ça. Les gens viennent nous voir dans un premier temps, les primo-arrivants, les personnes qui viennent de débarquer en France, qui sont orientées vers les associations que vous connaissez peut-être, Coalia, Squaz, qui font un travail formidable. Le premier, la porte d'entrée, c'est l'aide alimentaire. Mais nos missions, elles sont vastes. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les gens qui viennent au Secours Populaire, au bout d'un moment, ne viennent plus au Secours Populaire. C'est d'aller vers l'autonomie, vers la... on ne veut pas faire ce qu'on appelle, ce que certains appellent de l'assistanat, c'est avec une fonction péjorative, mais nous, dans notre jargon à nous, c'est pas péjoratif, c'est qu'on veut pas aller vers ça, on veut que les gens s'autonomisent, se prennent en main leur destin, et on les aide pour ça. Et c'est ça notre principale mission, c'est d'aider les gens à un moment où ils en ont besoin.
Comment aidez-vous la personne immigrante ?
En leur proposant des aides. Simplement. Les personnes qui arrivent dans nos antennes ou dans nos comités, on les inscrit On leur demande leur nom, une adresse postale pour pouvoir communiquer, un numéro de téléphone pour pouvoir communiquer si jamais un rendez-vous annulé, des choses comme ça. Mmh. Et on propose des aides. Toutes les aides dont je viens de te parler, on les propose aux personnes migrantes, comme à des personnes qui sont en France depuis 50 ans. Et on ne fait pas de distinguo, en fait.
D'accord.
La situation administrative ne nous regarde pas, ne nous intéresse pas. Pas à la limite, parce que c'est pas notre domaine. Ce qu'on fait parfois, c'est il nous est arrivé de faire des témoignages pour des dossiers à la préfecture. C'est-à-dire, par exemple, on a c'est un ami est bénévole et puis il a besoin, donc on fait tout ça. On a ce qu'on appelle pop démarche. C'est une pop démarche parce que populaire, pop démarche. Oui, bien sûr, oui, c'est très actif. D'ailleurs, oui, il y a. Alors, on ne va pas se substituer à la personne. On va lui donner des conseils. On va lui donner des. Ça arrive quelquefois qu'on décroche le téléphone pour téléphoner à un avocat. Mais la plupart du temps, c'est plus des conseils, c'est plus comment il faut faire pour faire telle ou telle démarche, comment est-ce qu'il faut... Ça va être des choses comme ça.
Pensez-vous qu'on aide assez les personnes migrantes en France et à Rennes ?
Le Secours Populaire a une devise, c'est tout ce qui est humain et autre, mais il y a également une autre... On se préoccupe des conséquences, pas des causes, pour autant. Ça ne nous empêche pas d'être ce qu'on appelle aiguillon des pouvoirs publics et effectivement de mettre le doigt quelquefois là où ça fait mal. Alors là à partir de maintenant, je m'exprime en mon nom propre, en tant que citoyen et non plus au nom du Secours Populaire. Je pense que certainement pas assez. Pour autant, ce que je constate, c'est qu'on n'est pas le pire pays d'Europe pour l'accueil des personnes migrantes. Très honnêtement, il y a vraiment beaucoup de dispositifs. Alors évidemment, pas assez. Évidemment, il y a une lenteur quelquefois dans l'instruction des dossiers qui fait dresser le peu de cheveux qui me reste sur la tête. Mais on n'est pas dans le pire pays d'Europe pour l'accueil des migrants. Mais effectivement, il y a des progrès, il y a plein de choses. Et on a la chance aussi également d'être en Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Et on a un département, une région et une ville aussi qui se préoccupe pas mal de ça, hein, puisque moi j'ai découvert en arrivant au Secours Populaire l'association Squazel, l'association Coalia, enfin tous les gens qui font un travail formidable. Donc ma réponse, ça va être une réponse de Normand, et pourtant je suis pas Normand, c'est oui et non. C'est-à-dire que probablement et certainement pas assez. Je pense que c'est les délais aussi qui sont parfois intolérables, quoi. On est sur des années, on parle d'années, hein, donc.
Que faudrait-il faire d'autre ?
Faciliter effectivement toutes les procédures, éviter les tracasseries, mettre plus de moyens dans cette aide, faire en sorte que les gens s'intègrent le plus rapidement, le plus facilement, quand ils en ont la volonté, parce qu'il y a aussi, quelquefois, on le constate, et c'est une réalité donc effective, un repli communautaire, quelquefois, donc qui n'est pas souhaitable. Moi, je suis assez universaliste, hein, donc dans moi et le Secours Populaire aussi, on est mondial, hein, on a cette envie-là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus ? Ça, c'est vraiment une colle là que tu me poses. Peut-être aussi considérer, peut-être comme tu disais tout à l'heure, au cas par cas, faire des choses un peu plus ciblées.
C'est la dernière question.
Oui.
Selon vous, comment peut-on améliorer la vie des personnes migrantes en France ?
En changeant le regard sur la personne migrante, en changeant le regard. Donc, il y a beaucoup de gens en France, et ça je tiens à le souligner, qui ont un regard bienveillant sur les phénomènes migratoires, sur les migrations. Alors encore une fois, c'est pareil, je vais m'exprimer en mon nom propre. Hein. Le Secours Populaire, je pense que ne rejetterai pas ce que je veux dire, mais en ayant un regard bienveillant sur la personne et l'acceptation de l'autre tel qu'il est dans sa culture, dans son... avec en contrepartie. C'est-à-dire que c'est un échange gagnant-gagnant, quoi. Il faut que la personne qui arrive en France ait aussi cette volonté de se dire, moi j'arrive en France, je vais aller vers les autres, je vais aller et je vais essayer aussi de m'adapter un petit peu aux lois, ou que sais-je, aux coutumes, non, parce que c'est bien aussi de garder, d'avoir sa propre culture. Mais pour autant, ne pas se replier dans un... Parce qu'on constate, hein, malheureusement, quelquefois, il y a un repli communautaire, c'est-à-dire que les personnes ne sortent quasiment pas de leur milieu. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que cet échange-là, ça marche dans les deux sens, en fait. Il faut que chacun fasse un pas l'un vers l'autre.
Merci beaucoup.
Non, non, mais moi, je m'enrichis tous les jours. C'est ça qui est bien. À mon âge, je ne pensais pas. Ben, pourtant, si.
Bonjour, nous sommes avec Florian qui va répondre à notre question dans notre interview. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Bonjour, donc je suis Florian Kuhn, je suis le médiateur social de l'espace social commun de Ville-Jean-Kennedy-Beauregard.
Quel est le statut de centre social?
C'est une association qui fait partie de justement l'association Rennaise des centres sociaux, ARCS.
Quelles sont vos missions?
Mes missions, on va dire dans les grandes lignes, c'est que toute personne qui entre dans le centre social ait accès à ses droits. Donc ça passe par de l'orientation, je peux passer le relais aussi aux partenaires de l'espace social commun ou des partenaires à l'extérieur du lieu. Je peux prendre un temps avec eux aussi pour démêler leurs problématiques. Je peux les recevoir dans mon bureau, si besoin. Je peux aussi gérer des conflits. Ça peut arriver dans le lieu. Une personne qui vient pour quelque chose et qui n'est pas satisfait de ce qu'on lui propose. Je suis aussi, en tant que médiateur, là pour prendre un temps avec la personne et comprendre pourquoi il a un désaccord. Et ensuite, je participe à certaines animations, certaines, voire commissions, certaines réunions pour des événements à l'extérieur ou à l'intérieur.
Comment aidez-vous les personnes migrantes qui viennent en France?
Alors, une personne, on va dire, dite étrangère, elle a le droit d'avoir accès à différents services. On va avoir, par exemple, l'espace numérique. À Ville-Jean, il est ouvert le lundi matin et le vendredi matin. Cet espace numérique est constitué de médiateurs numériques qui permettent, avec la personne étrangère ou migrante, de accéder à des services dématérialisés, par exemple renouvellement de titre de séjour ou première demande ou des démarches avec la préfecture. Et eux peuvent prendre le temps de voir avec la personne comment on fait des démarches sur un ordinateur. Ensuite, on peut avoir des services à l'étage en fonction de plusieurs critères, sans rentrer trop dans les détails. On peut orienter vers des assistantes sociales en fonction de depuis combien de temps la personne est en France ou à Rennes. Voilà, il y a plusieurs critères. Donc là, la personne, je l'invite à venir pour qu'on fasse le point avec elle. Et sinon, on l'oriente vers diverses structures comme le MRAP, l'UAIR ou la CIMAD. Ensuite, on va avoir un avocat du droit des étrangers qui fait une permanence toutes les 2 semaines à l'espace social commun. Et voilà, donc c'est un avocat, c'est aussi relatif à sa demande et à ses problématiques.
Cette question-là est un peu personnelle.
Ok.
Pensez-vous qu'on aide assez les personnes migrantes en France et à Rennes?
En tant que médiateur, je trouve qu'il y a déjà des services proposés. Je parlais tout à l'heure de l'espace numérique. Il faut savoir que normalement, c'est à la préfecture de s'en occuper. Cependant, comme la préfecture, par moment, ne font pas forcément toutes les démarches, ou en tout cas, ça peut prendre un temps, ou la personne ne se sent pas forcément entendue, on a ce service ici, alors c'est à l'espace social commun, c'est rattaché au CCAS, pour compenser, on va dire, ce que devraient faire les autres structures. Vous voyez ce que je veux dire?
L'État, surtout.
Voilà. Je trouve, moi, en tant que médiateur, qu'il pourrait y en avoir encore plus, ou en tout cas, plus de personnel embauché pour y répondre. Au-delà du nombre de services proposés, une main-d'œuvre aussi. Et la main-d'œuvre, ça considère aussi des bonnes conditions de travail. Parce qu'on peut être très engagé pour le droit des étrangers. Cependant, si on est dans des conditions de travail difficiles, il faut tenir la cadence. Parce qu'il y a beaucoup de demandes.
Bonjour Florian. Je m'appelle Neza, je suis marocain. D'abord, merci pour votre accueil et merci d'accepter de répondre de nos questions. Aujourd'hui, je vais vous poser des questions concernant les droits des étrangers. Comme ça, on peut aider les étrangers et les auditeurs étrangers qui écoutent l'émission pour avoir plus d'informations. Est-ce que vous accompagnez les personnes qui sont en situation irrégulière dans les démarches administratives, par exemple dans les demandes de titres de séjour ou bien dans le marché d'emploi.
Pour les démarches administratives, en fait, le centre social en tant que tel, on ne fait pas de démarches avec la personne. En tant que centre social, nous, on propose des temps, des activités, des animations. Voilà, en tant que centre social, non.
On est sur l'accueil, l'orientation.
Sur aussi le lien social et puis la mobilisation de la solidarité habitante aussi, ça peut arriver, notamment pour les situations de non-hébergement, où on peut faire appel aussi à la solidarité.
Des gens du quartier ?
Des gens du quartier, quand on a fait le tour de tout ce qui est possible par les institutions, par les associations compétentes, par le 115, bien sûr, etc. etc. Ça nous est arrivé de pouvoir, effectivement, débloquer des situations pour la mise à l'abri en urgence, le soir même. Et ça nous laisse le temps, après, le lendemain, de continuer notre orientation, notre recherche en lien avec les assos.
Je vous prends encore 2 minutes de votre temps. Oui. Vous parlez orientation, ça veut dire quoi, orientation ?
Eh bien, en fait, une fois qu'on a bien débriefé avec la personne ou la famille, on a bien fait le tour de tout ce qui a déjà été réalisé comme démarche. Alors, soit on complète par ce qui n'a pas été tenté, sollicité. Parce que souvent, les personnes disent « oui, j'ai appelé le 115 », mais en fait, ils n'ont pas appelé 115 comme il faut, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention de l'appel, de la communication avec le 115. Donc on leur apprend à vraiment obtenir, enfin rentrer en communication avec le 115. Ça peut arriver qu'on appelle aussi nous, les travailleurs sociaux du 115, parce qu'on a la ligne directe, pour donner des éléments de vulnérabilité de la famille ou de la personne, etc. etc. Enfin voilà, et puis des fois ça peut relever de la SFAD aussi, pour les femmes, les familles, enfin, en fonction des situations, voilà. Et des fois, ça peut relever du CEDAS aussi. Alors, pas pour les personnes sans papier, certes, mais des fois, on a affaire aussi avec des personnes qui peuvent relever du CEDAS et qui ne le savaient pas. Et puis après, il y a tout le travail avec les associations militantes. Et quand celles-ci sont débordées, on va même jusqu'à appeler les paroisses. Et ça arrive, ma foi, que des paroisses accueillent dans le presbytère des couples, des familles, des adultes, ou alors des habitants.
J'allais vous dire heureusement, c'est parce que la charité chrétienne prévoit.
Ben en fait, ils sont dans la même situation que nous, en fait. C'est-à-dire que ils ont pas vocation à ça, ils ont pas les locaux pour. Donc ils ouvrent des portes et tout ça, mais ils le font à titre, on va dire, personnel, sans avoir de moyens, sans avoir que leurs valeurs comme nous. Voilà. Donc en ce moment, justement, suite à l'évacuation du gymnase de Lille, alors c'est pas un presbytère, mais c'est la fac, c'est Rennes 2 qui accueille les migrants qui n'ont pas été relogés par l'État. Voilà, dans le bâtiment des rêves.
Voilà, l'État ne fait pas totalement son travail. Ça n'engage que moi, ce que je viens de dire.
Oui, non,
mais voilà.
On soutient ce que vous dites.
D'accord.
Pas de souci.
Merci en tout cas. Merci du complément.
T'as complété des choses où j'avais pas tous les détails parce qu'elle est là depuis longtemps et.
Ouais, puis c'est la situation et elle nous parle d'une situation très récente là, très inquiétante.
Ah, oui,
ouais.
Et s'il vous plaît, si vous pouvez nous expliquer comment qui peut bénéficier d'une assistance sociale.
Effectivement, si vous posez des questions sur votre éligibilité à bénéficier d'une assistance sociale ou assistant social, n'hésitez pas à venir dans les locaux et on vous orientera en fait à l'accueil qui est à l'étage, qui est l'accueil justement du CEDAS. Et ici, on va échanger avec vous, faire un point en fait sur votre situation. Si ça répond à certains critères, il y a ce qu'on appelle un entretien de pré-évaluation. Et suite à ça, un assistant ou une assistante sociale va prendre la personne à sa charge, on va dire.
Voilà. Non, mais c'est très important parce que, comme disait ma collègue tout à l'heure, quand il n'y a plus aussi les assos ou autres pour aider, on fait marcher la solidarité. Et oui, la solidarité, elle marche comment ? Bah, pour des personnes qui ont connu ça. C'est de la vraie solidarité. J'ai connu à mon échelle ce que peut être une forme de misère. Et ben, je vais t'aider à mon tour aussi. Mais tant qu'on n'a pas vu ou connu, quel que soit, voilà, quel que soit le degré, en fait, on sait pas. Et on voit ça d'un œil un peu supérieur en se disant, pourquoi ils se plaignent, ils ont plein d'aide, ils ont plein de machin, mais
Ouais, c'est bien plus compliqué.
Bien plus compliqué. Mais ouais, c'est très important de le dire, tout ça.
Je voulais dire à Florian, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes très généreux dans les informations. Ouais, et j'espère que j'ai aidé les auditeurs étrangers qui écoutent l'émission d'avoir plus d'informations par mes questions que j'ai données à Florian. Et merci beaucoup.
Merci à toi, Anessa. Merci, Sarah. Merci, Florian.
Merci aussi. Ouais. Merci à toi aussi et à ta collègue
Sarah.
Merci. C'était une belle discussion avec vous.
Merci beaucoup.
Nous avons tous choisi une œuvre en lien avec l'immigration. Voici nos choix. Je choisis le film « Les Nageuses » car il m'inspire. C'est une histoire vraie. C'est un film de 2022 réalisé par Sally El-Hassan, qu'on peut trouver sur Netflix. Ce sont 12 sœurs syriennes qui sont des nageuses professionnelles et qui ont quitté la Syrie à cause de la guerre. Elles traversent la Méditerranée pour aller en Europe. Elles embarquent avec l'espoir que tout sera facile et que leurs parents pourront venir les rejoindre grâce au regroupement familial. Pendant la traversée, les bateaux gonflables ont un problème et commencent à couler. Les sœurs tirent les bateaux avec 20 personnes jusqu'à la rive en Grèce. Quand j'ai choisi de faire le droit, c'était pour aider les personnes victimes d'injustice. Le prénom de l'héroïne est Sarah, comme moi. Elle a sauvé des vies et son destin, et en plus, elle est depuis engagée dans une association SOS Méditerranée pour secourir des étrangers en danger dans la mer. L'héroïne, on choisit d'aller au bout de leurs rêves. Moi aussi, j'ai décidé de suivre mes rêves en venant en France. La migration est un parcours difficile car, premièrement, on laisse toute sa vie, sa famille, ses amis, sa maison, sa langue, il faut tout recommencer comme si vous étiez un enfant. Notre devoir est de lutter pour les droits. Mais si les droits sont en conflit avec la justice, notre devoir est de lutter pour une justice juste. Je suis contre les personnes qui sont punies car elles aident des étrangers sans rien demander en retour. Par exemple, un des principes de la devise française est la fraternité. Cela ne sert à rien d'avoir une devise si on ne la pratique pas. On doit réfléchir sur cette question.
Merci Sarah.
J'ai choisi la photographe suisse Jane Revilliard qui photographie les habitants du jungle de Calais. On ne voit jamais d'étrangers. Ce sont juste des cabines de bois, des toits en plastique, des murs en paillet pour s'abriter dans la forêt. L'artiste parle de toutes ces personnes qui veulent aller en Angleterre et qui en entendre vivre comme ils peuvent dans des conditions difficiles.
Et donc c'est un photographe suisse, Jean Réveillard, et tu dis, c'est intéressant que jamais on ne voit de personnes.
Oui.
On voit juste leur lieu de vie.
Oui, oui, oui.
En attendant de pouvoir rejoindre l'Angleterre coûte que coûte. Merci, Safa.
Pour moi, j'ai choisi l'œuvre de photographe français Mathieu Pernot, qui a fait des photos des étrangers afghans en 2009. Ils sont représentés sous des draps blancs. Ils sont souvent allongés sur des bancs ou par terre dans la rue. On ne voit jamais leur visage. J'ai choisi cela car le photographe montre la précarité des personnes qui sont obligées de dormir dans la rue et qui ont perdu leur situation en venant ici. Ils ont perdu toute dignité et leur seul moyen de retrouver un espace intime et de se cacher sous ses draps. C'est tout ce qui leur appartient.
Merci Nesra.
Merci à vous.
J'ai choisi une œuvre de Bansky car j'aime beaucoup les peintures sur les murs. Bansky est une artiste de street art anglais. Il a fait un collage de Steve Jobs, le fondateur d'Apple, dans la jungle de Calais. Le fondateur d'Apple a des origines syriennes et il est très très riche. Je trouve que c'est bien de montrer que les étrangers peuvent aussi réussir et apporter des choses au pays. Dans certains médias, on nous montre souvent comme des jeunes qui prennent tout et qui ne donnent rien. Beaucoup d'étrangers ont fait des choses pour la France, comme Marie Curie. Et on ne parle pas beaucoup de ces étrangers.
Merci beaucoup, Assier.
J'ai choisi les sculptures de Bruno Catalano. C'est une sculpture italienne. Il est connu car il fabrique des hommes en métal. J'ai choisi la sculpture d'un homme sur un rocher dans la mer. J'imagine que Léon est venu en bateau. Il est triste et pas content car il a quitté sa famille. Il est parti seul. Il n'a pas de corps. Il n'a que sa tête. Il porte une valise. Dans la valise, j'imagine qu'il a des vêtements, des papiers, les diplômes, les passeports. Le trou dans son corps veut dire qu'une partie de lui n'y a pas là maintenant. Il n'a pas son cœur, car il a laissé son cœur au pays, ce qu'il aime.
Merci Nijina, donc c'est les sculptures de Bruno Catalano. Et c'est très joli ce que tu racontes sur ce que tu imagines de cet homme qui a un trou dans le corps et qui aurait laissé son cœur dans son pays natal. Voilà, sans amis, sans famille. Et ce que tu imagines aussi, ce qu'il a mis dans sa valise. Les diplômes.
Les papiers, les vêtements aussi.
Les photos peut-être aussi.
Les photos, oui.
C'est très joli. Merci beaucoup, Nijina.
J'ai choisi le film Isabelle Traversée. C'est un film d'animation réalisé par Florence Zemilhai. C'est un film de deux enfants qui vivent dans un dictateur et qui veulent vivre dans un pays sans violence. C'est un film qui montre que parfois on n'a pas le choix de quitter un pays. Sur la route, on est obligé de faire beaucoup de choses pour arriver à son but comme moi. Je n'ai pas le choix de quitter mon pays. J'aimerais bien que tout le monde comprenne cela.
Merci Nasreddine. Il y a beaucoup de gens qui le comprennent. Il y en a qui ne veulent pas comprendre, mais il y a quand même beaucoup de gens qui comprennent qu'on est parfois obligé à cause de la guerre, à cause de la dictature. Et qu'on a tellement peur qu'on est obligé de partir. Et je t'assure qu'il y a plein de gens qui le comprennent.
Merci avec Ananis, avec Morgane. Elle est très gentille et doux pour me prendre les langues de français très bien. Très gentil.
Moi, je vais remercier toutes les gens qui ont travaillé à l'association Langues et Communication. Je vais remercier aussi Anaïs, notre professeur, et toi aussi, Morgane, qui nous avons aidé pour apprendre la langue française. Je veux dire merci. Et voilà.
Merci à toi, Nasreddine. Merci.
Et je voulais dire merci beaucoup à Morgane et à Anaïs et toute l'équipe de langue et communication pour nous accompagner dans toute cette période. Vraiment, nous a aidé beaucoup à améliorer notre niveau. Merci beaucoup.
Je voudrais vous remercier et merci pour Anaïs aussi pour nous aider dans cette période aussi. Mon langue de français est améliorée grâce de vous et Anaïs et toute l'équipe de la langue communication. Grand merci pour vous et pour Anaïs et aussi langue communication bien sûr.
Merci Safa. Donc Anaïs, tu as bien entendu, tu es remerciée, tu n'es pas là avec nous. Tu es là par la pensée et dans nos cœurs. Merci Anaïs.
Merci beaucoup. Oui, je ne sais pas pourquoi.
Les ateliers radiophoniques de Canal B.
Canal B, radio curieuse.
My head is on the stars.